Saguenay.
Ouais, ben, M. Dubé l'avait dit, le ministre de la Santé hier, le pire est à venir. Quand j'ai vu la baisse des cas aujourd'hui, deuxième baisse consécutive, hein, on est parti de 155 à 94 hier, à 89 aujourd'hui, Maxime, je t'ai dit, ben voyons, le ministre de la Santé, il est dans le champ, là, ça va pas si mal. On a peut-être atteint notre pic dimanche dernier, mais ce qu'il y a d'inquiétant, c'est du côté des hospitalisations. Puis je le disais hier, c'est toujours le chiffre qu'il faut regarder en premier, autant au niveau régional que provincial. Puis là, aujourd'hui, le chiffre, il est pas beau. Là. Il y a une augmentation d'hospitalisation d'à peu près 25 %. Donc, 27 hospitalisations, dont 5 aux soins intensifs. On va aller en discuter avec la présidente de la Fédération des infirmières du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Julie Bouchard. Bonjour, Mme Bouchard.
Bonjour.
Alors, est-ce que ça vous inquiète, vous aussi, là, ce nombre d'hospitalisations en forte hausse aujourd'hui?
Tout à fait. C'est vraiment inquiétant de voir ça, à quel point là il y a eu une augmentation assez considérable des hospitalisations, surtout entre autres au niveau des soins intensifs, où sur une capacité de 6 lits, il y en a 5 qui sont déjà remplis. Alors, c'est très, très, très sombre comme couleur, mettons, là, pour les hospitalisations au niveau de la région.
Est-ce que vous vous attendiez à ce que le ministre de la Santé, Christian Dubé, vous amène un peu d'aide, un peu de soulagement, peut-être même vous envoie des effectifs de la capitale nationale, là où les cas sont en baisse? Est-ce que vous considérez que M. Dubé est arrivé dans la région les mains vides?
Tout à fait, tout à fait. Hier, j'avais hâte là, que la conférence de presse débute pour voir qu'est-ce qu'il y avait à nous annoncer. Est-ce qu'on avait des mesures incitatives? Est-ce qu'on allait avoir des gens pour nous aider dans notre travail? Est-ce que ça allait être tout simplement des solutions concrètes à mettre sur le terrain immédiatement pour venir nous donner des bras là au niveau des CHSLD qui sont en éclosion, au niveau de l'hôpital de Chicoutimi, de l'hôpital d'Allemagne? Mais tout ce qu'on a eu comme intervention, c'est continuer à porter votre masque, laver vos mains, et garder la distance de 2 mètres. Ça va bien aller, tu sais. Fait que moi, ce que je me suis questionnée hier en entendant ça, c'est est-ce que ça méritait vraiment de venir faire une tournée au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour se faire dire ça, alors que probablement que dans son point de presse de 13 heures, je pense, à tous les jours, le message aurait très bien pu être lancé là directement de Québec. Alors, j'ai été extrêmement déçue puisque je me dis, nous sommes la pire région au Québec. Nous étions déjà très, très, très précaires au niveau là, des professionnels en soins. On nous demande de faire encore plus avec moins. Les cas d'hospitalisation sont en hausse. Je me dis là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait là?
Dans les médias, on n'est pas très, très critique là, du travail du CIUS, incluant le travail du directeur régional de la santé publique, M. Aubin. Pensez-vous qu'on devrait l'être davantage? Vous venez de le dire, là. On est la pire région au Québec. Est-ce que ça se peut que le CIUS, dans la région, fasse pas une si bonne job que ça si on compare à ailleurs au Québec?
Bien, c'est sûr que si on compare avec ailleurs au Québec, on va comparer la même chose. Si on se parle de la première vague où, on sait, là, c'est vraiment Montréal là, qui a été extrêmement touché, où bon, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travailleuses et travailleurs de la santé qui étaient infectés. Ils ont eu l'armée canadienne. Même eux, là, ont fini par être infectés par le virus. Là, ils ont quand même été beaucoup touchés. Nous, ici, je pense qu'on a sous-estimé l'ampleur de la deuxième vague. Honnêtement, je pense que c'est ce qui est arrivé. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Je sais que au niveau là, le monde travaille extrêmement fort pour mettre en place des solutions, pour essayer de trouver du personnel là sur le plancher, que ce soit au niveau des professionnels en soins ou autre. Mais par contre, je maintiens qu'il aurait fallu y penser beaucoup plus tôt et réagir beaucoup plus rapidement, que ce soit au niveau du délestage de soins. Première pandémie, mais première vague plutôt qu'on a eue, il y a beaucoup, beaucoup de secteurs d'activité qui ont été délestés en prévision du nombre d'hospitalisations. Tu sais, on se disait, bon, on a 21 lits de disponibles, on va délester plein, plein, plein de choses. Et au final, il n'y a pas eu d'hospitalisation là, autant qu'on avait prévu. Maintenant, on est dans la deuxième vague et on s'est fié. Bien, excuse-moi, là, je veux dire, c'est pas moi qui prends cette décision-là quand même. Mais je veux dire, le CIUS s'est fié à, on n'a pas eu beaucoup d'hospitalisation en première vague, très peu de cas. Donc, deuxième vague, on va être très, très, très conservateur. On va délester ce qu'on a à délester tranquillement, pas vite. On va gérer ça à la pièce. Sauf que tout a éclaté en même temps, pratiquement. Et c'est là où je pense qu'ils se sont fait prendre au piège.
Bon.
Et non seulement on s'est fait tout éclater en même temps, mais encore une fois, c'est les travailleuses et travailleurs de la santé qui ont contracté le virus et qu'on s'est ramassé avec encore moins de personnel sur place.
119 cas à l'hôpital d'Alma, 113 à l'hôpital de Chicoutimi. On m'indique, et peu de médias, enfin, il y a juste nous qui en parlons, là, semble-t-il qu'à Chicoutimi, il y a une forte éclosion au bloc opératoire. Est-ce que vous avez la même information?
Non, pas du tout. Moi, ce que j'ai comme information, bloc opératoire, c'est quelques cas là, par-ci, par-là, sans plus. Là. Je veux dire, les endroits où que les éclosions au niveau du personnel est très, très important, c'est vraiment au niveau du D2. Là, et entre autres, à Jacques-Cartier, pour ce qui est de Chicoutimi. C'est vraiment les deux endroits où que c'est très difficile.
Donc, avez-vous les équipements de protection suffisants? Je sais qu'il y a un gros débat autour du masque N95. Est-ce que vous considérez que vos membres sont suffisamment bien protégés pour affronter ce virus?
Bien, je me dis que lors de la première vague, on demandait des masques N95 bon, pour protéger autant le patient que les professionnels. Ça a toujours été une fin de non-recevoir, ça coûte trop cher, oh, ben donc, bon, c'est trop de s'en procurer et il y a seulement lorsqu'on fait comme exemple d'acte infirmière ou de médecin, de faire des intubations où là, c'est vraiment nécessaire. Alors là, ça, c'était pendant la première vague. Deuxième vague, on est toujours sur le même débat. On nous refuse toujours de porter le N95 pour des fins de prévention, mais pourtant, c'est encore nous qui étions le plus infectés. Alors, pourquoi ne pas essayer autre chose? Pourquoi ne pas dire, bon, ben là, si on en perd plus, pour le moment donné, des infirmières auxiliaires, puis des inhalothérapeutes, on va finir par mettre la clé sur la porte. Pourquoi on ne nous le fournit pas? Pourquoi qu'on ne l'essaie pas? On perd rien à l'essayer. Je me dis que entre un masque qui protège beaucoup plus versus un masque chirurgical de procédure qui va, oui, protéger le patient, mais on voit bien que ça ne fonctionne pas, là, parce que, tu sais, je veux dire, au niveau des professionnels en soins, on a le visage dans le virus pendant 8 heures de temps et des fois même 16 heures. Alors, il y a de quoi qui se passe à ce niveau-là. Donc, il faut faire autrement, mais on s'entête à écouter les consignes de l'INSPQ qui disent que ce n'est pas nécessaire. Bien, si ce n'était pas nécessaire, probablement qu'on serait encore moins contaminé qu'on l'est aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose à quelque part qu'on ne fait pas ou qu'on n'a pas accès qui fait en sorte que on est infecté là, à quand même un bon niveau.
Ouais. En terminant, Julie, sur une échelle de 1 sur 10, le moral des troupes, présentement, ça ressemble à quoi?
Zéro.
Zéro, OK.
C'est même pas mal zéro. Ah non, pas tout. Il y a rien zéro présentement. Puis c'est assez, c'est vraiment triste ce qui se passe présentement dans le réseau. Le personnel est non seulement épuisé, mais désabusé du système et confronté à une détresse incroyable, à une tristesse, c'est du stress à tous les jours, c'est des heures incroyables. J'ai même parlé avec une infirmière hier, elle me disait, Julie, j'ai fait 80 heures de travail en 5 jours. 80 heures en 5 jours.
Inhumain.
Et là-dessus, on demande d'en faire encore plus. On demande de ne pas faire d'erreur et on lui demande d'être présente encore pour son prochain cas parce que sinon, on est en bris de service. Alors, vous comprendrez que quand on parle de morale et qu'on voit des équipes de travail qui ont le nez là-dedans et qui doivent aussi avoir une qualité de vie à l'extérieur, avoir une vie de famille, il n'y a rien qui est au rendez-vous présentement. C'est vraiment triste de voir ça et on n'a pas d'aide non plus là, présentement. Donc, c'est très sombre.
Julie, bonne chance, bon courage.
Parfait, merci.
Merci. Julie Bouchard est présidente de la Fédération des infirmières du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous l'avez entendu sur une échelle de...
C'est clair, hein?
1 sur 10, le moral des troupes, zéro. Voilà. Elle nous a indiqué pendant la conversation qu'il n'y aurait que quelques cas du côté du bloc opératoire à l'hôpital de Chicoutimi. Ce n'est pas ce que me disent les sources. On va donc valider avec les gens du CIUS, mais pendant l'entrevue, d'ailleurs, je recevais des messages. On dit là, qu'il y aurait beaucoup d'employés qui seraient infectés par le coronavirus au bloc opératoire présentement à l'hôpital de Chicoutimi, mais c'est une information que l'on va devoir valider au retour de la pause. De bonnes nouvelles, enfin, pour Ginette Côté de Voyage Nouvelle Escale.
Le retour de Courchaîne. On prend une petite pause, on revient ensuite. Restez là. Kick 95.7 Saguenay.